Le livre « La construction écologique » vient de paraître aux éditions Terre Vivante. Son auteur, Jean-Claude Mangoni, y fait un exposé complet des matériaux d'éco-construction associés à des exemples concrets de mise en œuvre. Son mot d'ordre, la sobriété. Jean-Claude Mangoni au micro de Jean Tonelli.
Pour vous, qu'est-ce que c'est l'idéal écologique en termes de construction ?
Voilà une question déjà difficile. En fait, moi je résume toujours l'idéal écologique par quatre mots qui commencent chacun par S. C'est pour ça que j'ai appelé les quatre S, simplicité, sobriété, santé et solidarité. Je pense qu'une maison écologique, c'est d'abord une maison simple dans sa conception. C'est une maison solidaire, et là on peut parler de solidarité quant au partage d'habitat, je pense à l'habitat groupé. On peut parler de solidarité par rapport à qui va construire, qui va fournir les matériaux, qui va fabriquer les matériaux. Une maison dont les techniques et les matériaux ne nuisent pas à la santé de la terre et à la santé des hommes. Et sobriété évidemment, sobriété en énergie, tant à l'utilisation qu'à la construction, sobriété en eau, sobriété globale en fait. En fait, l'écologie, pour moi, la maison écologique, c'est une vision globale. On se pose un certain nombre de questions et on essaye de répondre de façon globale, sur base d'un certain nombre de critères que j'essaye de développer tout au long de l'ouvrage.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, votre ouvrage est très complet. Je pense que c'est une très très bonne synthèse de la construction écologique à l'heure actuelle. Donc, dans ces principes que vous édictez, vous parlez justement de points essentiels. C'est-à-dire que si on garde la structure de votre livre, il y avait cet idéal écologique avec ses 4 S, et ensuite les points essentiels d'une construction écologique. Si vous en aviez un ou deux ou trois à mettre en exergue, vous appuieriez sur lesquels ?
Alors, je pense que aujourd'hui, à une décennie, en fait, on est face à une dérégulation climatique, face au changement climatique. Un point essentiel, c'est certainement la sobriété en énergie. Par contre, j'essaye d'expliquer que porter son regard sur l'énergie en utilisation, au niveau du chauffage, au niveau de l'eau chaude sanitaire, ne suffit pas. Il faut aussi concevoir des bâtiments qui vont dépenser peu d'énergie à la fabrication, à la construction. On peut très bien fabriquer des maisons passives, donc des maisons qui vont dépenser très très peu d'énergie en béton et par exemple en polystyrène extrudé, qui vont, par leur construction, demander autant d'énergie que 30 années à 50 années de chauffage de ces mêmes maisons. Donc il est crucial, en 2011, de vraiment réfléchir à nos choix de conception et de construction.
Ça, c'est important ce que vous dites, parce que je pense que les fabricants de béton, par exemple, de parpaings et autres matériaux de ce type, essayent de verdir leurs produits en oubliant ça.
C'est ce que j'appelle le regard monocritère. On nous dit, nous allons vous construire une maison qui va dépenser 10 litres de mazout par mètre carré par an, ou même moins, ou même 3 litres de mazout par mètre carré par an, et on oublie en fait de dire aux gens qu'il en faudra beaucoup, beaucoup plus pour construire la maison. C'est pour ça que j'appelle à une globalité du regard, à un regard à 180 degrés, vraiment pour essayer de définir ensemble simplement c'est quoi une maison écologique.
Et en partant bien de cette idée de la fabrication des matériaux qui vont nous servir à faire la maison doivent être intégrés dans le bilan écologique, dans l'empreinte écologique de la maison en elle-même.
Absolument.
On pourrait même aller plus loin jusqu'à la destruction de la maison. Une maison en terre crue, sa destruction n'occasionne pas grand-chose en termes d'empreinte écologique, à part peut-être le matériel qu'on va utiliser pour la démolir, alors que d'autres matériaux, il faut les recycler, il faut les mettre en décharge, c'est totalement différent.
Tout à fait, donc d'où le regard porté vers des matériaux qui sont non seulement recyclables, parce que recyclable ne veut pas dire recycler, mais sur des matériaux qui sont effectivement recyclés à l'heure actuelle, qui peuvent être recyclés à l'heure actuelle, ou même compostables. Comme vous disiez, une maison dont on favorise le bois, la terre, la paille, éventuellement même les fibres de bois ou de la cellulose au niveau de l'isolation, sont des maisons qui peuvent être détruites sans nuire à la planète et sans nuire aux générations futures. Donc c'est vers ces matériaux-là qu'il faut vraiment aller.
Dans un de vos chapitres, vous parlez vers le bâtiment de référence, le TER, ou TER. Oui. C'est quoi ça ?
En fait, les normes actuelles sont basées sur des notions un peu théoriques, un peu abscons. On parle de kilowattheure par mètre carré par an. On nous dit une maison de basse consommation ne doit pas dépasser 45 ou 50 kilowattheures par mètre carré par an. Et en fait, moi j'ai voulu donner des valeurs de référence qui imagent mieux quelle quantité d'isolant utiliser. Donc j'ai pris une maison, en tout cas, j'ai défini une maison un peu référence, une maison un peu témoin, si vous voulez, que j'appelais notre toit écologiquement responsable, notre terre.
Dans cette maison de référence, c'est quoi qui est à prendre en considération ? C'est une simplicité de la maison ?
C'est plein de choses, dont notamment une simplicité de la maison. Simplicité tant à la conception que par rapport à la surface. Mais là, on peut parler de sobriété, en fait. Oui. On a tendance, en 2011 encore, à construire des maisons qui sont démesurées. Mmh. Une maison trop grande, c'est une maison qui va devoir dépenser plus d'énergie, c'est plus d'emprunt, plus d'angoisse, plus de difficultés à nouer les deux bouts. C'est vraiment, il faut aller retourner vers des maisons simples.
Et de surface à nettoyer tous les jours ensuite, enfin, ou une
absolument,
fois par semaine ou deux.
Absolument.
Là d'ailleurs, je vois que par rapport à ça, vous parlez de ventilation douce, soit mécanique ou naturelle, c'est-à-dire que là aussi, vous essayez, pourquoi pas, de réutiliser la ventilation naturelle plutôt que mécanique. Là aussi, on fait encore des économies quant à l'achat du matériel et à l'usage.
Actuellement, le débat oppose les partisans de la ventilation mécanique contrôlée, donc la fameuse VMC, qu'elle soit simple flux et double flux, aux partisans des fenêtres ouvertes. Donc je n'ai pas besoin de ventilation mécanique, je n'ai pas besoin de technologie pour ventiler ma maison, j'ouvre les fenêtres. Je pense que si on doit faire le choix d'une technologie dans la maison, elle doit vraisemblablement être portée vers la ventilation. Donc je suis un partisan de la ventilation naturelle, la ventilation mécanique, mais elle peut se décliner soit sous VMC, ventilation mécanique contrôlée, et là on parle de la double flux, soit il y a d'autres principes
avec
qui ne sont pas tellement connus.
Avec un échangeur de chaleur si possible, suivant la région où on habite, pour récupérer les calories qui vont partir.
Si on opte pour une VMC, je pense qu'il faut aller vers la VMC double flux, qui récupère les calories qui partent vers l'extérieur pour les réinjecter dans l'extérieur, vers l'intérieur de la maison. Mais il y a d'autres techniques, ce que j'appelle la ventilation naturelle contrôlée. C'est une technique que j'essaye d'expliquer dans l'ouvrage. Il y a d'ailleurs une des maisons de référence. En fait, la fin de l'ouvrage est imagée par cet exemple. Il y a une des maisons qui est ventilée par VNC et ça fonctionne très très bien et ça fonctionne de façon très peu énergivore. Donc c'est peut-être une découverte qu'on doit susciter, c'est bien la ventilation naturelle contrôlée. Alors c'est un peu technique, donc c'est un peu compliqué à expliquer au téléphone, mais je propose que les lecteurs lisent ce paragraphe avec attention.
Là, on est en train de partir un peu tout azimut pour donner envie à nos auditeurs de prendre le livre, de le lire, de le feuilleter, de le reprendre, de le refeuilleter. Je pense qu'il est très bien documenté, il est très dense en fait. Hein, vous avez bien balayé l'ensemble des différents aspects de la construction écologique, et c'est ça qu'on peut pas résumer à une interview de quelques minutes. C'est normal.
Pour reprendre un peu mon itinéraire, j'ai géré un exode de matériaux écologiques pendant 5 ans. J'ai également géré une équipe de pose de ces matériaux écologiques pendant 4 ans. Et en fait, j'ai essayé de résumer dans un ouvrage les questions que les porteurs de projets se posent de façon commune. J'ai parcouru pour l'écriture de cet ouvrage un certain nombre de chantiers. J'ai été interviewé des dizaines de personnes. Et puis j'ai essayé de schématiser en fait les questionnements de la plupart des gens dans un ouvrage. Voilà, ma démarche elle était ainsi faite.
D'ailleurs, elle est très pédagogique et votre livre est bourré d'illustrations, que ce soit des schémas, que ce soit des photos, qui permettent de bien appréhender ce que vous expliquez. Je pense que un schéma est quand même très souvent bien plus performant en termes de compréhension rapide qu'une longue explication. Je pense que l'illustration de votre livre est très bien faite.
Avec l'éditeur Terre Vivante, on a vraiment attaché beaucoup d'importance aux photos et aux schémas. Donc il y en a plusieurs dizaines. Et également des tableaux récapitulatifs en fait.
Puis des foires aux questions, ce qui est assez amusant
tout
aussi.
Tout à fait, oui.
La construction écologique, un ouvrage paru aux éditions Terre Vivante, est disponible dans toutes les bonnes librairies.